C'est utile et que je n'ai pas crainte de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors Paul, il est en train de parler à ce petit groupe des anciens en Éphèse. Il est prêt pour aller à Jérusalem. Il donne des dernières instructions, c'est comme les derniers mots que Paul il va donner à sa propre église. Alors c'est quelque chose qui est très important pour lui. Okay? C'est comme moi ce matin, ou ces derniers jours, je pensais, qu'est-ce que je peux partager avec mon église? Si ça serait la dernière fois que je vous parle, alors ce message c'est la même chose que Paul a dit. On va parler de la repentance et la foi, que c'est en fait les deux choses qui sont nécessaires pour le salut, la repentance et la foi. Alors Paul, il est en train d'exprimer son cœur. Qu'est-ce qu'il va dire? C'est le dernier mot de Paul à cette église. Il savait qu'il va aller à Jérusalem, qu'il va trouver des problèmes, des persécutions, peut-être la mort. En verset 26, un petit peu plus bas, ils savent que c'est la dernière fois qu'il va voir cette église. Et il prend le temps de parler de la repentance et la foi. Pourquoi? Parce que c'est vraiment important. Une bonne compréhension de la repentance et de la foi pour le salut et pour la vie chrétienne aussi. Alors il a dit qu'il a prêché, qu'il a annoncé la repentance vers Dieu et la foi vers notre Seigneur Jésus-Christ. Et après il continue pour dire qu'il va trouver des problèmes, etc. Et il dit en verset 24, « Mais je ne fais pas pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Son ministère, c'était annoncer la bonne nouvelle, mais notre compréhension de cette bonne nouvelle n'est pas complète si on n'a pas une bonne compréhension de la repentance et la foi. Autrement dit, la repentance et la foi, c'est une partie de la bonne nouvelle. En verset 24, il a dit qu'il a annoncé la bonne nouvelle. Et en verset 21, il a dit qu'il a annoncé la repentance et la foi. Ok, vous comprenez? La repentance et la foi, c'est une partie de la bonne nouvelle, de l'évangile. Parce que la repentance et la foi, c'est les deux choses nécessaires pour le salut. Et c'est en fait la même chose, mais c'est différent. C'est comme les deux côtés de la même pièce. C'est la même chose, mais c'est différent. Et après, Paul continue, versets 25 et 27. « Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant, quoi? Le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur de sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans rien cacher. » Paul dit qu'il a annoncé tout, qu'il est libre de sang, qu'il est innocent. Il a donné suffisamment d'informations pour les gens pour être sauvés. Il a prêché, il a annoncé la repentance et la foi. Alors, le thème d'aujourd'hui, ou le sujet, comme je dis, c'est la vraie repentance. Et la foi, peut-être l'année prochaine. Il y a vraiment un grand emphase. C'est très important dans les Écritures, le mot « repentance ». Dans tous les sermons, dans toutes les occasions qu'un groupe prêche, il y a le mot « repentance ». En fait, si vous regardez, c'était quoi le premier mot, le premier message de Jean le Baptiste? C'était la repentance. Matthieu 3:1. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'était quoi la première phrase, la première idée de Jésus dans son ministère? Marc 1, 14, « Repentez-vous et croyez la bonne nouvelle. » Repentance et foi. Repentez et croyez. C'était quoi la première chose que les disciples ont prêché? Marc 6, 10, Jésus il donne des instructions et en verset 12, il part, les disciples, il part et il prêche la repentance. C'était quoi l'instruction de Jésus après la résurrection? Luc 24, 46 à 47, Jésus il dit, « Et que la repentance et le pardon de péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. » la repentance. C'était aussi le premier sermon chrétien. En Actes 2, 38, Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. » Le premier message de Paul, Actes 26, 19, il parle avec le roi Agrippa et il le finit avec en lui disant qu'il faut pratiquer les œuvres dignes de repentance. Alors la repentance n'est pas seulement quelque chose d'important ou nécessaire, indispensable pour le salut, c'est aussi quelque chose d'important, indispensable pour la vie chrétienne, pour la maturité, pour la progression dans votre sanctification. Alors ce message, je vais le diviser un petit peu dans deux parties. La première partie, on va voir c'est quoi la repentance pour nous, une église, des gens qui sont nés de nouveau. Vous êtes sauvés, vous avez le Saint-Esprit en vous, alors vous êtes né de nouveau. Cette première partie, c'est pour vous. C'est quoi la repentance pour vous, mes frères et mes sœurs de Calvary Chapel, ok? Et après, la deuxième partie, ça va être c'est quoi la repentance ou l'importance de la repentance pour quelqu'un qui n'est pas sauvé ou qui n'est pas encore un chrétien. On commence avec la repentance pour un croyant. Et j'ai préparé ça parce que je pense que c'est très important pour vous de connaître, pour nous tous, de comprendre que la repentance est quelque chose pour notre vie quotidienne. Quelqu'un a prié ce matin, il a demandé aide pour la repentance dans chaque jour. Donc, on va commencer doucement. On commence avec le ministère de Jean-Baptiste, Luc 3. Ils disent qu'il a prêché le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Luc 3, 3. Et en fait, la fonction, la raison de Jean-Baptiste d'être, c'était pour prêcher la repentance, pour préparer le chemin et pour signaler c'était qui le Messie, le Christ. Ça, c'était les deux fonctions de Jean-Baptiste. Préparer le chemin avec la repentance, sa prêche de repentance, et deuxièmement, de dire, OK, c'est lui le Messie, c'est lui le Christ. Ça, c'était les deux fonctions de Jean-Baptiste. Et Jean, quand il prêche la repentance, il dit que sans la repentance, il n'y a pas de pardon de péché. Si vous voulez avoir vos péchés pardonnés, il faut se repentir, Jean-Baptiste disait. Et aussi après, il a dit, OK, maintenant, si vous avez la repentance, maintenant, je vous montre le Messie. Il faut croire en lui. Jean-Baptiste, il avait ce message. Il faut se repentir pour le pardon des péchés, et maintenant, je vous montre le Christ. C'est lui, il faut croire à lui, faire confiance. La repentance et la foi, les deux côtés de la même pièce. Ça, c'était le message de Jean-Baptiste, et vous savez quoi, que le message, c'est le même aujourd'hui. Le message aujourd'hui qu'on doit prêcher, qu'on doit nous prêcher à nous-mêmes, c'est la même chose. On doit nous repentir et on doit aller vers Jésus, vers le Christ. Ça, c'était les deux fonctions de Jean-Baptiste et le message, c'est le même pour nous. Repentance, la parole repentance, ça vient du grec metanoia, que vraiment, ça parle d'un changement d'idée, changer d'avis. Mais ce n'est pas seulement changer d'avis, c'est aussi changer de direction. Je peux changer d'avis, je peux dire, OK, je pensais à l'époque, je pensais que, bon, l'avortement, il était bien, mais maintenant, je pense que pas trop. La vraie repentance, c'est pas seulement changement d'avis, mais c'est aussi marcher de l'autre côté. Si on a marché vers le nord, maintenant, on va marcher vers le sud. La vraie repentance, c'est quelque chose qui vient de notre cœur. Et en fait, c'est un cadeau de Dieu. 2 Timothée 2, 25, ils disent que la repentance, c'est en fait donné par Dieu. La vraie repentance. Alors, vous êtes nés de nouveau, on est tous ici des frères et des sœurs qui ont été sauvés, j'espère, ok? On a eu cette vraie repentance un jour. On a vu notre péché comme quelque chose de terrible et on a dit, ok, je laisse tomber tout ça, je ne veux plus, je me repens de ça. Et maintenant, je veux changer de direction, je vais aller de l'autre côté et je mets ma confiance en Jésus pour mon salut. Dans ce moment, c'est quelque chose qui s'appelle être né de nouveau. On a le Saint-Esprit en nous et on l'a fait une fois. Mais la repentance, ce n'est pas une vaccination. Ce n'est pas une chose que vous avez fait le 1er avril 1990 et c'est tout. Non. C'est quelque chose qu'on doit faire chaque jour de notre vie. On a eu la vraie repentance, le changement de cœur un jour, mais à partir de ça, on doit continuer notre croissance dans la sanctification, notre croissance dans la compréhension de la sainteté de Dieu. Et ça nous donnera encore plus de repentance pour les choses qu'on a fait avant, mais aussi les choses qu'on fait chaque jour de notre vie. Donc si on a cette croissance, cette progression dans notre compréhension, dans notre pratique de la repentance, c'est un bon signe. C'est-à-dire qu'on a une compréhension qu'on est en train de grandir dans notre chemin, notre sanctification avec Dieu. Le livre de Hébreux, il nous donne cette instruction d'aller vers la sainteté. Ok, vous êtes sauvés, ça c'est bien. Mais maintenant, le livre de Hébreux, ils disent, il faut continuer, il faut progresser. Hébreux 12, 14. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte. Faites tous vos efforts pour le faire. Après, ils disent, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ok, encore une fois, on a été sauvés, on s'est repenti, on a laissé tomber nos péchés. Et à ce moment, on est né de nouveau. On a une progression vers la sanctification ou à travers la sanctification. Et on doit avoir une constante repentance. Parce que le petit péché qu'on a eu à quand on est né de nouveau, notre premier jour comme chrétien, maintenant, ça doit paraître quelque chose de terrible. Parce qu'on a grandi dans cette progression, cette process de sanctification. On connaît beaucoup plus la sainteté de Dieu. On connaît beaucoup plus la gravité de notre péché, comme on est pécheur, comme on a besoin de la grâce de Dieu. Alors, c'est un procès. On est en train de grandir vers la sanctification. Et une preuve qu'on est sauvé, c'est ça. Qu'on a toujours la repentance, qu'on a toujours ce désir de se repentir de notre petit péché, de notre grand péché. Et on a tous de péchés dans notre vie, oui, on est des chrétiens, on est né de nouveau, mais je pense que je me suis réveillé à 7 heures, maintenant c'est 11 heures, je pense que j'ai péché 10 fois, je ne sais pas. Mais on a quand même cette nature. Et maintenant, quand je vais prier, je vais me repentir de ces 10 péchés que j'ai fait dans 4 heures peut-être. Et on a tous, si vous comprenez ce que je vous dis, vous allez le faire aussi. Vous allez comprendre que votre vie n'est pas parfaite. Et vous avez besoin d'avoir quand même une repentance chaque jour. Parce que ça, c'est un signe que vous grandissez vers la sanctification. Mais à l'époque de Jean le Baptiste, il avait un problème. Que la repentance était quelque chose de pas profond. Les gens, ils prenaient pas sérieusement la repentance. C'était des hypocrites. C'était des gens qu'ils disaient ou ils pensaient, oui, ok, je sais que ce soir je vais pécher, mais ça fait rien parce que je sais qu'après Dieu va me pardonner. Je dois juste aller au temple, je vais faire des sacrifices et tout. Alors, il avait une culture d'hypocrisie. C'était des gens qui savaient qu'ils vont pécher et après, ils disaient, ok, c'est pas grave, je vais avoir la repentance et je reviens après à mon péché. Et cette repentance qui n'était pas profonde, c'est un problème. C'est quelque chose de très... c'est terrifiant dans la Bible. Matthieu 7, 22, il nous donne une... comment on dit il nous dit qu'il faut faire attention. Plusieurs me diront en ces jours-là, « Seigneur, Seigneur, nous n'avons pas prophétisé par ton nom. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ?» Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité, c'est traduit aussi comme vous qui continuez à pécher, ou vous qui transgressez la loi, vous qui continuez dans le péché. C'est quelqu'un qui a eu la repentance, mais ce n'était pas vrai. C'était des hypocrites, c'était quelqu'un qui a juste joué la religion, qui a dit, ok, je me repens, mais après demain, dans un mois, je vais le faire encore une fois, parce que je sais que Dieu, il va me pardonner. Ça, c'est pas la vraie repentance, ça, c'est quelqu'un qui est en train de, comment on dit, de flirter, on dit comme ça? Oui. Flirter avec son péché. C'est quelqu'un qui dit, OK, aujourd'hui oui, demain non, etc. C'est quelqu'un qui aime son péché et qu'elle veut juste avoir une petite expérience religieuse et après elle revient. Alors il y a dans le livre de Tite, en 16, il décrit aussi ceux qui professent connaître Dieu, mais sa vie, ses actions, ils disent le contraire. 2 Timothée 2:19, il parle aussi de ceux qui n'ont le nom de Christ, qu'ils disent oui, je crois, mais leur action, ils disent le contraire. En Actes chapitre 8, aussi on a l'histoire de Simon, le sorcier. La Bible dit qu'il a cru et même il s'est baptisé, mais sa repentance n'était pas vraie. La Bible dit que son cœur n'était pas correct, il n'était pas droit avec Dieu. Et aujourd'hui, dans nos églises, dans les églises que j'ai connues quand je voyageais, il y a beaucoup de monde qui n'ont pas une compréhension de cette vraie repentance. Des gens qui sont laissés tomber pour un moment, mais après ils reviennent. Mais pourquoi ils reviennent? Parce qu'ils n'ont pas un vrai désir de suivre à Jésus, de poursuivre, de laisser tomber le péché. La repentance, c'est un détournement. Il faut se détourner de son péché 180 degrés. Mais vous ne pouvez pas tourner complètement si vous ne laissez pas ce qu'il avait de ce côté. Alors, ici, j'ai mon péché et il a dû de l'autre côté. Okay, je dis, OK, je vais me repentir. Je ne peux pas faire comme ça et laisser la main gauche de l'autre côté. Alors, la repentance, c'est vraiment laisser ça pour tourner totalement 180 degrés et embrasser Dieu, le prendre complètement. Et c'est important de dire qu'il faut tourner vers Dieu parce qu'il existe aussi la repentance comme ça. La repentance qui dit, OK, je vais laisser, par exemple, quelqu'un qui trompe sa femme, OK, quelqu'un qui a un affaire, OK, il dit, OK, je vais arrêter ça. Maintenant, je ne vais plus faire ça, maintenant je vais aller juste vers la pornographie. Après, on dit, OK, je ne veux plus faire ça, OK, je vais juste convoiter avec les yeux, je vais juste regarder. OK, je ne veux plus faire ça, maintenant je vais pécher avec mon cœur, je vais juste me rendre ivre ou les cigarettes, je ne sais pas, des choses mauvaises aussi. Alors la repentance, ce n'est pas ça, la repentance, c'est laisser le péché pour embrasser Dieu. On ne peut pas changer le péché pour un autre péché. Là, et c'est ça, quand il y a le concept, l'idée de foi aussi, parce que pour faire cet changement de direction, laisser le péché et tourner vers Dieu, on a la foi. Okay? Tourner vers Dieu implique avoir une foi, avoir une confiance en Dieu qu'il est plus puissant, plus bon, il donne plus de satisfaction que tous les péchés du monde. Alors, la vraie repentance, pour avoir une vraie repentance, on a besoin d'avoir une claire conception, une claire idée de la sainteté de Dieu. Vous savez que Dieu, il demande perfection dans votre parole, votre pensée, vos actions. Pourquoi? Parce qu'il est parfait, il est saint. Ce matin, quand on conduisait, on écoutait une entrevue dans la radio, et quelqu'un il a dit, Dieu, il ne peut pas vous accepter parce qu'il habite dans un autre royaume. C'est comme si j'aime beaucoup mon petit poisson là. Je ne peux pas plonger et aller vivre avec lui, même si je l'aime beaucoup. Je ne peux pas le sortir de là parce qu'on habite dans 12 environnements totalement différents. C'est comme ça avec Dieu. S'il est parfait et saint, on ne peut pas nous accepter si on a un petit péché. Alors, si on comprend bien cette sainteté de Dieu, cette perfection qu'il a et qu'il demande de nous, on va avoir une vraie repentance. Et la repentance aussi, c'est un commandement. Acte 17, 30, dit que Dieu ordonne, qu'il commande maintenant aux hommes se repentir. Pourquoi? Parce qu'il va juger en justice la terre. Pourquoi la repentance est un commandement? Je vous explique comme ça. Si je vois que mon fils, il est en train de jouer sur la rue, il a ce camion qui vient s'approcher, Il vient vers lui. Je ne veux pas l'inviter à sortir de la rue. Je veux le commander. Je veux crier, je veux lui dire, bouge, oui, sors de là, attention, etc. Dieu, il est en train de commander de la même façon, parce qu'il y a sept camions qui viennent vers nous. C'est le jour de jugement. Acte 17:30, je viens de lire. Alors, Dieu, il commande parce qu'il nous aime. Parce qu'ils savent que si on reste à notre péché, on va périr, on va être écrasé par cette camion qui vient. Alors, la repentance est aussi un commandement. Il commande aux hommes en tout lieu de se repentir. Pourquoi? Parce qu'il vous aime. Parce qu'il nous aime. Ça, c'était le message de Jésus, de Jean-Baptiste, des apôtres. Si on a la vraie repentance, la Bible dit que Dieu il va nous donner un nouveau cœur, qu'il change notre cœur de pierre pour un cœur de un chair. Il va nous donner de nouveaux désirs. On va commencer à détester ce qu'on a aimé avant et on va aimer ce qu'on détestait après. Dans ma vie, ma conversion, c'était comme ça. C'était quelque chose comme ça, la nuit et le jour. La nuit d'avant, j'aimais vraiment mon péché. Le jour d'après, je pouvais même vomir de penser à ce que j'ai fait la nuit d'avant. C'est ça, c'est la vraie repentance qui vous donne un nouveau cœur avec des désirs nouveaux. Charles Spurgeon, le prince de prédicateur, il a dit « La repentance, c'est la découverte du mal qui caractérise le péché en deuil que c'est par ce que nous avons fait et la décision d'abandonner ces péchés. En fait, c'est un changement de vie très profond et en même temps concret ou pratique qui fait que l'homme aime ce qu'il détestait auparavant et qu'il déteste ce qu'il aimé autrefois. » Ça, c'est une petite définition de repentance. Pourquoi j'ai choisi ce message pour vous ce matin? Parce que la Bible, Paul, il a parlé aux Corinthiens, 2 Corinthiens 13, 5, il a dit « Examinez-vous vous-même et voyez-vous si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. » Ça, c'est mon message, l'exhortation ce matin, c'est de vous inviter à vous examiner et pour voir si vous avez eu la vraie repentance quand vous étiez converti, quand vous étiez sauvé. Et aussi pour que vous continuiez à avoir cette repentance, pour agrandir dans votre connaissance de la sainteté de Dieu, pour avoir une progression dans votre vie chrétienne. On ne peut pas grandir sans avoir une repentance chaque jour. Comme je dis, la preuve que vous êtes né de nouveau, c'est que vous continuez à avoir cette repentance. Ce n'est pas une chose d'un jour. Non, on continue à avoir la repentance parce qu'on est en train de grandir dans notre propre sainteté. Dieu, il commande qu'on ait cette repentance pour le salut, mais aussi dans notre vie. Alors ça, c'était... Pourquoi nous, comme chrétiens, devons avoir la repentance, okay? Pourquoi nous, comme chrétiens, pourquoi c'est important de comprendre la repentance dans notre vie quotidienne? C'était ça. C'est parce que c'est un commandement et il nous donne l'opportunité de grandir dans notre marche avec Dieu. Et la deuxième chose ce matin, c'est la repentance pour un non-croyant. Pourquoi c'est important de comprendre la repentance pour le non-croyant? Pour le non-croyant, pour vos amis, s'il y a quelqu'un ici qui visite, qu'il n'est pas sûr, il faut comprendre d'abord c'est quoi le péché. Comment est-ce qu'on peut se repentir de quelque chose qu'on ne connaît pas? En Jean 3, 4, il nous donne la parfaite définition de péché. Il dit que le péché est la transgression de la loi. Alors, si on veut comprendre c'est quoi le péché est la transgression de la loi. C'est quoi la loi? Bon, la loi morale de Dieu, les 10 commandements. Le non-croyant doit comprendre aussi que les 10 commandements, la loi de Dieu, la loi morale, c'est le standard que Dieu utilise pour déterminer si on est de personnes bien, de bonnes personnes, si on est parfaite. Si vous n'avez jamais violé, transgressé les 10 commandements, alors vous êtes parfaite. Mais je pense que personne ne l'a fait. La Bible dit que personne ne peut garder la loi. Et exactement pour ça, Dieu l'a donné. Pour que nous puissions aller et demander pardon pour que nous puissions aller et demander sa grâce, sa miséricorde. Parce que personne ne peut être parfaite par rapport au standard de Dieu. La repentance, pour les non-croyants, c'est très important parce que s'ils viennent à l'église, ou même s'ils font une prière, s'ils disent qu'ils connaissent Dieu, mais il n'a pas eu la vraie repentance, s'il n'a pas eu une bonne compréhension de son péché, il est venu à l'église pour des autres raisons. Peut-être parce qu'on a le café après, peut-être parce que la louange est bien, peut-être parce qu'il y a des amis ici. Ils viennent à l'église pour une autre raison que ce n'est pas vraiment le désir de grandir, de connaître Dieu. La vraie repentance, pour avoir la vraie repentance pour les non-croyants, il doit comprendre son péché. Sinon, on va avoir quelque chose de très tragique qui s'appelle une fausse conversion. Quelqu'un qui professe le nom de Christ, mais il ne connaît pas vraiment c'est quoi la raison pour laquelle il est venu nous sauver. Il nous a sauvés de quoi? Il n'a aucune idée. Et c'est ici où on va parler un petit peu de l'évangélisation. Parce que vous, si vous avez des amis non chrétiens et vous voulez qu'ils viennent à l'église, c'est facile de faire venir. Il faut juste leur dire qu'on a de bonnes musiques, des cafés et qu'après on va faire un pique-nique au parc de Carole de Roumanie. Il vient. Ça, c'est bien. Mais si vous voulez vraiment qu'il ait une compréhension de christianisme, de votre Seigneur, de votre Dieu, alors il faut commencer pour expliquer la loi. Il faut commencer pour expliquer la demande de perfection de Dieu. Dieu, il est saint, il est parfait. Il ne peut pas vous prendre si vous êtes sale, okay? Si vous êtes un pécheur, si vous n'êtes pas parfait. Romains 7, verset 7, Galates 3, 24, Romains 3, 19 et 20, c'est juste quelques passages qui parlent de la fonction de la loi en l'évangélisation. La loi a été donnée pour nous montrer qu'on n'est pas parfait, qu'on n'est pas des personnes bien, des bonnes personnes. Et que si on est jugé par rapport au standard de Dieu, on va aller en enfer. On est tous des criminels qu'on a transgressé la loi de Dieu. Si on n'a jamais volé, si on n'a jamais menti, si on n'a jamais regardé une femme avec des désirs, on a violé aussi le septième commandement. Jésus, il dit, le sixième commandement, c'est marqué qu'il ne faut pas tuer, mais Jésus, il a dit que si on déteste quelqu'un, c'est comme si on a tué avec notre cœur. Alors, si on n'a jamais détesté quelqu'un, Dieu nous voit comme un meurtrier. Le non-croyant, il doit comprendre ça. Pour après dire, ok, c'est ça que je fais mal, c'est ça que Dieu déteste, alors je vais me repentir, je vais détourner de mon péché. Si vous allez aujourd'hui au parc, vous pouvez demander à 10 personnes s'ils pensent qu'ils sont de bonnes personnes. Pas, 10 personnes non croyantes, vous êtes une bonne personne, ils vont dire oui bien sûr, oui je suis une bonne personne. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent le standard humain. Ils disent, si je n'ai jamais tué quelqu'un, si je paye mes impôts, si je ne trompe pas ma femme, si je fais ça et ça, oui, je suis une bonne personne, je ne suis pas comme un Adolf Hitler ou quelqu'un mauvais. Okay? Ça, c'est des mauvaises personnes, mais moi, je suis une bonne personne. Mais si on utilise le standard de Dieu, on voit qu'on n'est pas de bonnes personnes. Et c'est pour ça qu'on a besoin de quelqu'un qui nous sauve. Si Dieu est saint, et il est bon, et il est parfait, il doit punir le péché. C'est pour ça que le non-croyant doit se repentir, détourner de ses péchés et mettre sa confiance en Jésus. John Wycliffe, un traducteur de la Bible, théologien du siècle 14 siècle, il a dit, si vous n'enseignez pas la loi dans votre présentation de l'Évangile, vous allez remplir votre église de faux convertis. Des gens qui viennent à l'église pour de mauvaises raisons, pas pour la vraie raison de l'évangile. Je vais vous donner un exemple. Si je dis un petit mensonge à mon petit-fils, à mon fils Alexander, okay, ça ne fait rien. Je dis un mensonge à mon fils, ça ne fait rien. Je n'ai aucune punition. Si je dis un petit mensonge à ma femme, peut-être... Je vais dormir dans le salon de mon appartement, okay? Dans le sofa, dans le canapé. Si je dis un mensonge à mon patron dans mon travail, peut-être il va me licencier. Si je dis un mensonge au président de la République, peut-être je vais aller en prison. Si je dis un mensonge à Dieu, je vais aller en enfer. C'est exactement le même crime, c'est exactement le même péché. Ce qui change, c'est le degré d'importance ou le degré de sainteté de chaque personne. Alors, on doit expliquer aux non-croyants que le péché, le petit mensonge, c'est pas quelque chose qu'on fait pour offenser quelqu'un d'autre, c'est vraiment contre Dieu. C'est pour ça que Paul, dans notre texte au début, il a dit qu'il a enseigné la repentance envers Dieu, parce que c'est Dieu la partie affectée, c'est Dieu la partie qui est en train de juger. Et foi à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le mensonge et notre péché qu'on fait chaque jour, c'est quelque chose contre Dieu, contre le Dieu qui est tout saint et tout puissant. Alors on va finir, je vais faire une conclusion. La repentance pour les croyantes, ça doit être quelque chose de chaque jour. On doit demander au Dieu de continuer à purifier notre cœur. Vous êtes sauvés? Félicitations, c'est bien. Mais maintenant, il faut progresser dans votre chemin, votre marche avec le Seigneur. Comment on fait ça? Avec une plus bonne compréhension de la sainteté de Dieu et, la, et comment c'est terrible, comment est sale notre péché. Alors, la repentance doit être quelque chose de chaque jour, de chaque moment. Demandez à Dieu de vous donner cette purification dans votre cœur pour voir votre péché dans la réalité, pour voir la sainteté de Dieu, pour continuer à vous repentir, pour progresser dans votre sanctification, votre chemin avec Dieu. Et ça, c'est ce que je voulais vous encourager, d'analyser votre vie et voir, numéro un, bien sûr, si vous avez vraiment la vraie repentance au début, ok? Et si oui, de continuer une marche avec la repentance, de continuer d'ici jusqu'au tous les jours de votre vie, vraiment. On ne va jamais arriver à être parfait, 100% saint dans notre vie, dans cette vie ici. Et c'est pour ça qu'on doit avoir la repentance chaque jour. Et au moment que vous allez voir la magnitude ou le poids de votre péché, comment ils sont grands et terribles, à ce moment, vous allez voir aussi comment il est grand et précieux, la grâce de Dieu. L'amour de Dieu qu'il était si grand et si fort pour balancer, pour couvrir tous ces péché. Alors il faut avoir une bonne compréhension de ce péché et la sainteté de Dieu pour après comprendre la grande grâce comme il est riche en miséricorde pour nous sauver quand même, pour couvrir tous ces péchés. Luc 7, 47. Mais celui à qui est pu pardonner aime pu. Si vous comprenez comment grand vous êtes pardonné de quelque chose si grande, alors vous allez aimer beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et pour les non-croyants, la conclusion c'est comment est-ce qu'on peut se repentir de quelque chose qu'on aime bien? Comment est-ce que quelqu'un peut se repentir de voler, de cacher des impôts, ou d'avoir deux femmes, comment est-ce qu'on peut le faire? Si on vole, on a un profit. Okay? Comment est-ce que je peux me repentir de ça si je gagne quand je vole? Comment est-ce que je peux me repentir d'avoir deux femmes si je gagne quand je fais ça? La Bible dit qu'il y a plaisir dans le péché. Comment est-ce qu'on peut le faire? La réponse est, vous ne pouvez pas. De la même façon que Pierre, il ne pouvait pas marcher sur l'eau, de la même façon que Lazare, il ne peut pas sortir du tombeau, vous ne pouvez pas laisser votre péché. C'est une chose qui vient de Dieu. Il faut juste lui demander. C'est Dieu qui va vous aider à le faire. C'est Dieu qui peut le faire pour vous. Il faut juste avoir l'attitude de repentance, le besoin de se repentir et dire, Dieu, oui, je comprends comment j'ai péché de moi. Je ne veux plus le faire. Donne-moi un nouveau cœur. Et vous avez la promesse dans la Bible que Dieu, il le fera. Pour les non-croyants, le pécheur, il doit se repentir. Il doit avoir une direction vers Dieu, repentance et foi. Et nous, comme croyants, on a déjà les outils ou les messages pour aider ces gens de se repentir. Ces messages ou ces outils s'appellent la loi de Dieu, les 10 commandements qui nous montrent le miroir du standard de Dieu. Il faut juste les montrer qu'ils ne sont pas de bonnes personnes, il faut juste les montrer qu'ils sont des pécheurs. Et alors tu dois te repentir, tu dois tourner vers Dieu. Ce sont les 2 conclusions. J'espère que ça va être utile pour vous. Et juste avant de partir, j'ai amené ce DVD, qui s'appelle 180. J'ai participé à la production de ce DVD et j'ai amené 10 copies. Okay? Je vais le donner à tous que vous voulez. Okay? Le problème, c'est que c'est seulement en anglais. Si vous comprenez un petit peu en anglais, prenez-le s'il vous plaît. Si vous allez le voir avec un ami ou vous voulez le donner à une autre personne, vous pouvez le prendre. Ou peut-être vous pouvez le prêter entre vous. Mais si vous ne comprenez rien du tout l'anglais, il faut juste aller sur le site internet 180movie.com et il y a sous-titres en français aussi et dans 30 langues. Donc je vous encourage. Ça s'appelle 180. Ça ne parle pas précisément de la repentance, mais c'est très intéressant. Il y a 3 millions de personnes l'ont vu sur YouTube. Donc je vous encourage, prenez 5 copies. Je veux juste prier pour le cours de ce matin et après on aura James aussi. Donc on prie. Seigneur, merci pour cette opportunité de partager avec mes frères et sœurs et je te prie juste que ce temps qu'on a passé ensemble, ce n'est pas en vain, qu'il y a vraiment de vérité ou des choses que j'ai dit qui peut les aider, qui peut faire une différence dans son chemin, son marche avec Dieu. Et pour les non-croyants aussi, je te prie s'il y a quelqu'un ici, Dieu, que tu le compelles, que tu le montres, ta sainteté pour qu'il ait la vraie repentance et qu'il tourne avec toi. Dieu, pour le reste, pour nous les croyants, je te prie que tu nous utilises aussi pour amener autres à Christ, à ton royaume. Merci pour cette opportunité. Je te prie pour chacun de mes frères et sœurs. Merci au nom de Jésus. Amen.